Vous écoutez
RMC.
Excellent réveil et bon dimanche. Vous êtes sur RMC, il est 8h.
RMC, la matinale week-end.
C'est l'heure du journal de Solène Gardré. Bonjour Solène.
Bonjour Mathieu, bonjour Peggy, bonjour à tous. Ouvrir le débat sur la GPA, la gestation pour autrui, c'est ce que souhaite Sarah El Haïry, la ministre en charge de l'enfance. Elle sera l'invitée de RMC à 8h40. De nouvelles mesures pour les agriculteurs, retraites, intempéries, mais la crise agricole n'est pas finie, préviennent les syndicats. Enfin, on reviendra sur la soirée difficile du PSG hier soir face au Havre, 3-3. Les Parisiens devront attendre encore un peu pour être sacrés. Sacré champion de France.
Cette question à la une ce matin, faut-il ouvrir le débat sur la GPA, gestation pour autrui, en France?
C'est en tout cas ce que souhaite la ministre chargée de l'enfance, Sarah El Haïry. Louer une mère porteuse pour porter son bébé n'est aujourd'hui pas autorisé, mais c'est pourtant une réalité dans le monde, rappelle la ministre.
Il y a des GPA aujourd'hui dans le monde. Ce qui est certain, c'est que oui, il faut protéger les enfants et leurs droits. Moi, je souhaite qu'on sorte de l'hypocrisie. On sait que c'est un sujet qui est difficile à aborder parce qu'il est instrumentalisé par des extrêmes. Je souhaite simplement que la préparation de notre pays à avoir un jour ce débat puisse se faire parce que oui,
il y a des enfants. Donc pourquoi pas un jour à l'issue d'un vrai débat ?
Ouvrir un débat, mais bien sûr, et c'est sain et c'est serein. Et c'est pour ça qu'il faut sortir de cette hypocrisie. Ces enfants vont bien, ils ont des parents qui les aiment, il faut les protéger et je serai à leur côté.
Et on pourra y revenir à 8h40 car la ministre sera notre invitée sur RMC.
De nouvelles mesures pour les agriculteurs.
Oui, près de 2 mois après les derniers blocages, 14 mesures complémentaires ont été annoncées hier par Gabriel Attal. Parmi elles, un nouveau calcul de la retraite des agriculteurs, des aides pour financer les exploitations et pour faire face aux intempéries. Mais chez les agriculteurs, la page des blocages n'est pas encore tournée, Anna Huot.
Le gouvernement promettait la paix sociale. Mais au micro de BFM TV, les syndicats agricoles, eux, restent plus nuancés.
Est-ce que vous dites que le mouvement est terminé?
Mais non, on ne peut pas dire ça.
Absolument pas.
Aujourd'hui, le mouvement, il n'a pas été suspendu.
Seul le président des jeunes agriculteurs assure que l'époque des blocages est révolue. Mais pour Jérôme Bayle, éleveur bovin en Haute-Garonne, figure du mouvement de contestation. Il manque d'autres mesures d'urgence, notamment sur le GNR, le gazole non routier utilisé pour les engins agricoles.
Le GNR continue à augmenter et les agriculteurs, pour eux, c'est vraiment une grosse manne financière. Dans les campagnes, la tension commence à remonter par rapport à ça.
Il faut aussi des réformes plus structurelles pour Jérôme Vol, vice-président de la FNSEA.
Il y aura besoin d'une nouvelle loi, notamment sur la relation commerciale, qui permet de dégager des revenus pour les agriculteurs. Ce que nous voulons en tant qu'agriculteurs, c'est vivre de notre métier et de nos produits.
Lors du Salon de l'agriculture, en février dernier, Emmanuel Macron avait promis aux agriculteurs de les rencontrer. Une rencontre qui devrait finalement avoir lieu la semaine prochaine.
Une annonce cette fois sur la lutte contre le trafic de drogue. Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, détaille ce matin la mise en place d'un statut de repenti pour les ex-trafiquants de drogue. L'objectif est d'encourager la collaboration avec la justice, ce qui aiderait notamment à démanteler les réseaux criminels. On y revient en détail dans le journal de 9h.
RMC 8h03, une nouvelle menace d'attentat à 3 mois des Jeux Olympiques.
Oui, des menaces trouvées fin mars dans une valise en plein Paris à la gare Saint-Lazare. C'est une histoire révélée par nos confrères du Parisien et qui pose une fois de plus la question de la sécurité à l'approche des JO. Lucas Laubert, le suspect, aurait volontairement placé cette valise dans la gare.
Oui, sur la vidéosurveillance, les enquêteurs découvrent cet homme rentrer dans la gare, déposer la valise et repartir aussitôt. À l'intérieur, plusieurs couteaux, des manuscrits dont certains font l'apologie de la cause palestinienne et puis des téléphones. Leur examen révèle des chants islamiques guerriers et même des messages de menaces d'attentat. Il faut tout faire péter avant les Jeux, peut-on lire. Le propriétaire de la valise est rapidement identifié par les policiers de la section antiterroriste, un homme de 36 ans, proche d'islamistes radicaux. Début avril, il est interpellé en région parisienne. Face aux enquêteurs, il nie, mais le parquet a confirmé hier soir sa mise en examen pour menace de crime, transport d'armes de catégorie D et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. La justice antiterroriste ne s'est pas saisie du dossier. Selon Le Parisien, qui cite une source proche de l'enquête, il ne s'agit pas d'une action terroriste imminente déjouée.
Encore des démissions au gouvernement. 3 membres de l'équipe de Prisat Evno, la porte-parole du gouvernement, ont officialisé leur départ hier. Romain Cluzel, en moins d'1 mois, il y a donc eu 7 démissions au sein de ce cabinet.
Et ces 3 nouvelles
démission marque la fin d'un mois cauchemardesque pour la porte-parole du gouvernement. Parce qu'en plus de ses départs à répétition, Prisca Thévenot est à l'origine de grosses erreurs de communication. Notamment lorsqu'elle a annoncé une tentative d'acte terroriste pendant le week-end de Pâques, avant de revenir sur ses propos. De quoi faire monter la pression au sein de son équipe. Une source gouvernementale va même plus loin. Ses erreurs l'ont fragilisée et elle n'est pas de très bonne composition avec son équipe. Une tension qui explique en partie les derniers départs, mais pour d'anciens conseillers passés par le porte-parole, tout cet épisode illustre la complexité du poste et selon eux, une forme d'impréparation de Prisca Thévenot et de son équipe dans leur nouvelle mission. Le cabinet de Prisca Thévenot ne fait aucun commentaire sur ses départs et assure que de nouveaux recrutements sont en cours.
RMC 8h05, Paris n'est toujours pas champion de France.
Oui, car il y a eu 3 partout hier soir pour le match du Havre contre le PSG. Le Paris Saint-Germain menait 3-1, a dû arracher le point du match nul au terme d'une soirée très compliquée, Valentin Jamin.
Oui, les espoirs de fête ont vite été éteints avec des joueurs en dedans, peu de rythme et 3 buts encaissés. Ce n'était pas arrivé depuis septembre au PSG en championnat. Le milieu, Warren Zaïre-Emery, le regrette.
On fait tout pour pas prendre de buts. C'est vrai, on en a pris 3. C'était pas l'objectif. Être mené 3 à la 75e, c'est pas facile. On a su remettre du rythme, montrer la force de caractère qu'on avait. Et on a réussi à renverser le match.
Et grâce à cette envie, cette rage que Paris a toujours cette saison, le but de Gonzalo Ramos évite au PSG une deuxième défaite en Ligue 1 et des doutes avant d'aller à Dortmund dans 3 jours pour la demi-finale de Ligue des Champions. L'entraîneur Luis Enrique en est fier.
On aurait mérité de gagner depuis le début. Je voudrais dire que nos supporters sont incroyables et grâce à eux, l'équipe ne peut pas s'arrêter de lutter. Je considère que nous sommes champions. Grâce à notre différence de but, nous ne serons pas rattrapés. Donc je fête ce résultat comme cela et il nous reste 2 trophées à aller chercher.
Et Paris peut être titré officiellement aujourd'hui si Monaco ne gagne pas contre Lyon.
Lyon-Monaco, c'est à suivre ce soir à partir de 19h.
Et puis, le 1er mai approche, Solène.
Et oui, avec lui, le traditionnel brin de muguet, un achat qui augmente. Selon une étude Kantar, les Français auraient dépensé en moyenne 7,80€ l'année dernière, contre 7,20€ en 2022. Mais même si le budget est en hausse, la tradition ne se perd pas. Reportage à Paris d'Ameline Lafchin.
Comme chaque année, Daniel a prévu d'offrir du muguet.
Ouais, je vais acheter des petits muguets pour ma mère et après pour quelques gens de la famille aussi.
Une tradition familiale et pour lui, le prix n'a pas d'importance.
Bah, c'est juste une fois dans l'année, autant se faire plaisir quoi.
Marie-Christine aussi en achète chaque 1er mai, que ce soit chez un fleuriste ou un particulier dans la rue. L'an dernier, elle en a pris pour sa mère et elle l'a payé.
15€, c'est quand même beaucoup parce que quand vous convertissez en francs, ça fait quand même 100€ 3 brins de muguet, ça fait un peu cher le muguet.
Un prix excessif et c'est justement pour ça que Clarisse s'en est passé l'année dernière.
J'avais regardé et j'ai dit « Ah non, ce prix-là, je ne mets pas ».
Mercredi, cette retraitée a prévu de parcourir les stands pour s'en offrir quelques brins, mais pas question de dépasser le budget.
5€ maxi, hein. Sinon, bah, tant pis, je m'en priverai. Ça fait quelques années que ça augmente.
En effet, depuis 2019, le muguet a pris jusqu'à 15% selon la Fédération française des artisans fleuristes. Farel Legendre en est le président.
Énergie, main-d'œuvre, on a un rattrapage sur la production et les coûts de transport, donc le muguet est effectivement un peu plus cher.
Alors, pour avoir un peu de chance à moindre coût, il y a toujours la possibilité d'aller en cueillir en forêt.
Voilà une bonne idée, mais toujours selon l'étude, la majorité des Français achètent leur muguet chez le fleuriste.
Mais oui, on n'a pas tous une forêt à proximité. Ça commence à faire cher ce petit porte-bonheur là, les 3 brins de muguet, 7€, merci, bonsoir. Hein.
Donc on n'en aura pas, c'est ça que vous êtes en train de me dire?
Je vais aller vous offrir du muguet? Alors je vous rappelle que le 1er mai est mercredi.
Et alors?
Et que malheureusement, ma chère Peggy, on ne se verra que le samedi. Et que
il
ça
aura
risque
le temps de
d'être flétri d'ici là. Bah oui, vous savez bien le problème.
Offert
de bon cœur.
Mais oui, bien sûr, Mathieu.
Oh, bah oui, ma chère Peggy. Merci, Solène Gardré. À tout à l'heure, 9h. Il est 8h08.
RMC, la matinale week-end.
Le 10 minutes chrono.
En revanche, avec grand plaisir, nous offrons ce matin un week-end de charme pour 2 personnes. C'est ça, Peggy?
Oui, dans le monastère de Saint-Mont, dans le Gers, un hôtel de luxe et de charme de la marque Charme et Caractère. Monastère inscrit aux monuments historiques, s'il vous plaît. Vous allez pouvoir vous détendre.
Charme et Caractère, pour ce week-end, vous appelez le 3216, vous composez la touche 4 ou le mot matin par SMS au 73216. Matin par SMS au 73216. 10 minutes tout pile pour vous inscrire. Tirage au sort, le gagnant, la gagnante avec nous avant 8h30. Bonne chance à vous.
À suivre dans la matinale week-end
Il faut donc ouvrir le débat sur la GPA, protéger les enfants français nés de gestation pour autrui. Voilà ce que dit Sarah El Haïry, la ministre des Familles, qui sera notre invitée à 8h40. Est-ce qu'il faut ouvrir ce débat sur la GPA en France? Vos appels, vos réactions au 32-16 ce matin.
À 8h20, la Story Sport avec vous, Julien Taxis. Bonjour, de quoi parle-t-on?
Bonjour Peggy, on va parler de volleyball et de l'histoire assez surprenante de Ludovic Duet, peut-être futur champion de France avec Saint-Nazaire, mais aussi et surtout futur prêtre. Il va rentrer dans les ordres à la fin de saison.
Ah tiens, avant cela, sanctionner les parents qui font louper l'école aux enfants pour profiter encore un peu plus des ponts de mai. C'est l'appel lancé par Olivier Flipaud, directeur d'école dans le Val d'Oise, délégué du syndicat UNSA, qui est avec nous dans 2 minutes.
RMC jusqu'à 9h30, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
Il est 8h12. Est-ce que vous comprenez ces parents qui vont faire louper l'école aux enfants pour profiter des ponts du mois de mai? Vos appels dès maintenant au 32-16.
Le témoin RMC.
Notre témoin ce matin, Olivier Flipaud, directeur d'une école à Cergy-Pontoise et délégué départemental du syndicat des enseignants UNSA.
Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous dites qu'il faut les sanctionner un peu plus sévèrement, ces parents. On va revenir sur l'échelle des sanctions. Mais d'abord, dans votre école, à Cergy-Pontoise, vous vous attendez à beaucoup d'absentéisme lors de ce mois de mai ?
Il y en a toujours, bien évidemment. C'est difficile de dire combien, mais a priori, on peut atteindre effectivement dans une classe de 25 enfants, 5 enfants, c'est-à-dire 20%. Quoi.
Enfin, 20%
à peu près. Hein, 20...
C'est une moyenne des années précédentes, Olivier Flipaud ?
Difficile de vous le dire parce que bon, je fais pas de relevé qui puisse clairement le qualifier, mais effectivement, c'est on a toujours des absences, mais pas qu'à ce moment-là. Je reprends un auditeur tout à l'heure qui évoquait des problèmes de prix de séjour. Vous savez que avant l'été, moi j'ai des enfants maintenant qui partent un mois et demi avant. Les vacances d'été. Pardon ? Parce que les billets sont moins chers. C'est pas possible.
Ils partent le 1er juin en vacances d'été.
Bien sûr. Là,
et
j'ai
le
déjà
motif
eu une
des
famille
parents
qui me l'a annoncé.
Pour cette année ?
Ils disent. Non, ils disent pas c'est les prix. Ils vous disent on peut pas faire autrement. C'est pour raison familiale ou alors pour le retour tardif à la fin de l'été. C'est j'ai pas trouvé d'avion. Oui, j'ai pas trouvé d'avion au prix qui m'intéressait.
Incroyable, Olivier.
Vous voyez ce que je veux dire ?
Ce sont des enfants que vous ne voyez pas pendant 4 mois, quoi, de juin à quasiment octobre.
Ça arrive tous les ans. Maintenant,
ils ont quel âge, ces enfants, Olivier Flipaud ?
C'est des enfants qui ont entre 6 et 11 ans, quoi. On va dire, hein. Moi, je suis directeur d'une école.
L'apprentissage indispensable. 6, 11 ans, c'est le CP, c'est le CE1, c'est le CM2.
Bien sûr, mais vous savez, moi je vais vous dire, hein, un enfant qui loupe l'école ou qui loupe, c'est comme si vous allez voir un film et on vous fait sortir de la salle au bout d'un moment et puis on vous y remet après. Ou alors je vais vous donner un autre exemple, c'est supprimer par exemple des étapes de la notice de montage quand vous achetez un produit en kit, ça manque et quand votre Marie là tout à l'heure, une auditrice.
Oui.
Nous disait que c'était un manque de respect à l'égard des profs.
Oui.
Elle a raison, mais encore plus, c'est un manque de respect à l'égard de l'élève en lui-même. Et je vais même aller encore plus loin, c'est un manque de respect à l'égard de l'État et du contribuable. L'école est gratuite, soit, c'est un droit, mais cela implique aussi des devoirs. Voilà, ça c'est important. L'État, enfin j'ai dire l'éducation nationale tient déjà compte des parents puisque par rapport à ça, le vendredi n'est pas travaillé pour permettre justement aux parents de partir, etc.
Mais alors attendez, Olivier Flipaud, justement parce que vous avez très bien écouté l'antenne d'RMC, j'en suis heureux ce matin, beaucoup d'auditeurs au 32-16, beaucoup de messages aussi sur l'appli RMC. C'est vrai que les écoles ont décidé de fermer. D'ailleurs, j'ai Jean-Pierre qui dit « Je salue l'intelligence des directions d'école qui ont carrément fermé. » Parce que c'est vrai que pour le vendredi qui correspond au 8-9 mai, pont de l'Ascension, là, il y aurait peut-être eu 90% d'absentéisme. Mais certains vous disent aussi « Cette année, c'est quand même tentant. C'est jackpot
bien
cette
sûr,
année. » Certains vont revenir à peine la zone B, vont revenir à peine de vacances, que ce sera 2 jours plus tard, déjà le 8 8, le 9, le 10 mai. Donc peut-être que des parents aussi se disent, bon, tant pis, il n'y aura pas le lundi, pas le mardi. De toute façon, ils ne feront pas grand-chose à l'école ces deux jours-là pour ceux qui reviennent.
Eh bien, si, ça travaille, mais moi, je comprends la tentation. De même que, je vais vous dire, hein, en tant qu'enseignant, par exemple, moi aussi, je serais tenté. Moi aussi, je n'ai pas envie de payer cher quand je pars en vacances. Tout le monde peut le comprendre, ça. Ceci étant dit, je pense qu'encore une fois, il s'agit de respecter les élèves. Effectivement, par rapport à ça, il y a des règles, il faut les respecter, c'est comme ça.
Alors, les règles, justement, Olivier Flipeau, que pouvez-vous faire, vous, en tant que directeur, pour rappeler à l'ordre certains parents, ceux notamment que vous évoquiez tout à l'heure, ceux qui font louper carrément plusieurs semaines, voire plusieurs mois de cours? Quels sont vos outils?
Alors, il y a des textes, il y a des règles qui sont édictées. Nous avons à remonter des informations à l'inspection académique de notre département quant aux absences dites illégitimes. On a trois niveaux, le niveau 1, 2 et 3. Il y a même un 2 bis, mais je le passe.
Oui, c'est l'éducation nationale, 1, ça.
Voilà, c'est ça. Le niveau 1, c'est quand un enfant, par exemple, manque à partir de 4 demi-journées sur un même mois. Mmh. Niveau 2, ça se poursuit, et niveau 3, c'est encore plus.
D'accord.
En fait, ça, ce sont les règles, mais matériellement
4 demi-journées,
parlant,
donc 2 jours injustifiés, à partir de 2 jours injustifiés par mois, vous pouvez agir.
C'est écrit d'ailleurs dans les règlements intérieurs des écoles. Les gens se doivent, les parents se doivent de justifier les absences. Mais qu'est-ce qu'un justificatif? Moi, je vais vous dire, j'ai clairement des parents qui sont capables de m'écrire « Mon enfant est absent parce qu'il est absent ». Clairement, je vous le dis.
Ça fait sourire, mais c'est pas très drôle, hein.
Non, mais je pense qu'il vaut mieux en rire, parce que je pense que c'est un manque d'intelligence complète par rapport à ça. Mais on a ce type. Alors, il y a tous ceux qui utilisent des arguments divers et variés. Là, dernièrement, j'avais un papa qui me disait, je suis désolé, mon enfant, on n'est pas rentré de vacances. On peut pas, ma maman a fait un AVC, une hémorragie cérébrale, je suis obligé d'être à côté d'elle.
Oui.
Et puis, il m'envoie son justificatif médical, qu'il n'était pas obligé de m'envoyer d'ailleurs.
Oui.
L'hémorragie cérébrale, elle date de décembre dernier.
Oui, Olivier Flipeau. Le problème, c'est qu'il y a des sanctions qui peuvent aller, on le rappelait tout à l'heure, jusqu'à 2 ans de prison, 30 000 euros d'amende, mais ça, c'est pour les cas extrêmes, c'est pour carrément les cas de déscolarisation. Et vous le dites, vous, ça n'est quasiment jamais appliqué. Vous souhaitez tout de même pouvoir sanctionner ces parents avec qui font usage de des motifs là, que vous nous relayez ce matin. Comment vous voulez les sanctionner? De quelle manière plus efficace?
Alors moi je souhaite pas sanctionner, c'est l'institution qui se doit de sanctionner. Moi je l'ai jamais vu ça, hein, des peines de cet ordre-là. Ça fait plus de 20 ans que je fais de la direction d'école, je ne l'ai jamais vu. Et puis se pose un autre problème aussi, c'est le problème du directeur d'école. Le directeur d'école, il est tout seul à gérer, bien souvent il a une classe en gestion lui-même. Moi, à titre personnel, honnêtement, les 4 demi-journées, je ne prends pas le temps, je ne peux pas matériellement l'assurer. Je suis tout seul à travailler dans mon bureau, j'ai pas de secrétariat, c'est pas un collège. Voilà, moi ce que je fais, c'est quand il y a vraiment un abus avec des gens qui en sont à, je sais pas moi, 15, 20 jours qui s'accumulent en quelques mois, là effectivement je fais remonter. Les gens reçoivent généralement un courrier.
Mais vous souhaiteriez quoi? Pouvoir exclure ces enfants, les radier? Parce que là, ce serait punir l'enfant, pas les parents.
Voilà, c'est ça. Il faut surtout pas punir l'enfant. Je veux dire, ça c'est clair. Mais que les parents soient mis face à leurs responsabilités et au respect de leurs enfants et au respect de l'institution et de l'école et de l'État qui reçoit gratuitement leurs enfants. Encore une fois, l'école est gratuite, c'est un droit. Mais comme tout droit, ça implique des devoirs. Et je pense qu'à un moment, quand un parent ne respecte pas, il y a un moment, faut pouvoir taper du poing sur la table et dire non, stop, ça n'est pas possible.
Eh bien, voilà, c'est très clair. Et votre appel est lancé ce matin sur RMC, alors que les ponts du mois de mai vont arriver très vite, dès mercredi prochain. C'est le premier jour férié. Olivier Flipaud, directeur d'une école à Cergy-Pontoise, dans le Val d'Oise, délégué départemental du syndicat des enseignants UNSA. Merci à vous d'avoir été en direct.
Merci à vous.
Et bon dimanche, bonne semaine, 8h21.
RMC, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
8h22.
RMC,
la story sport.
L'histoire sport du jour avec Julien Taxis.
Bonjour Julien.
Bonjour à tous.
Finale retour ce soir du championnat de France de volleyball. Tours accueille Saint-Nazaire avec un joueur en pleine lumière.
Ludovic Duhay, le capitaine saint-nazérois, va disputer le dernier match de sa carrière puisqu'ensuite il rentrera dans les ordres.
Et oui, pourtant ce grand gaillard d'1m92, libéraux du club de Saint-Nazaire, va peut-être vivre l'apothéose ce soir de sa carrière en cas de victoire face à Tours qui est, rappelons-le, l'ogre du championnat. À Saint-Nazaire, le petit poussé sera sacré champion de France. Mais quel que soit le résultat de cette finale, après plus de 10 ans passés au haut niveau, Ludovic Duhay a décidé de changer de vie. Il va rentrer dans les ordres. Il veut devenir prêtre et le futur père Ludovic nous explique pourquoi. Au micro RMC Sport de Maria Azé.
Ça fait des années quand même que je le mûris. Je pense être appelé au sacerdoce, alors en particulier à la vie religieuse. Donc je m'y dirige et en fait en posant la question clairement à Jésus, je dis vas-y maintenant je suis là. Est-ce que tu veux vraiment ça de moi?
Voilà.
Incroyable.
Il a posé la question à Jésus. Il aurait pu, Ludovic Duhay, continuer sa carrière de volleyeur. À 32 ans, il avait de son propre aveu encore quelques belles années devant lui sur les parquets. Mais ce choix mûrement réfléchi, tout sauf une lubie, dit-il, il l'assume pleinement. Et il a d'ailleurs été plutôt bien accueilli par son entourage.
J'ai conscience que c'est pas forcément commun en ce moment et surtout dans la société actuelle. Mais les gens autour de moi, qu'ils comprennent ou pas, ont été très respectueux. Généralement, on attaque quelqu'un dont on voit les failles, non pas que je n'en ai pas, mais quand un choix est assumé pleinement, il est beaucoup plus accepté autour de soi.
Bon, comment on fait pour devenir prêtre quand on est volleyeur professionnel? On imagine que ça ne se fait pas du jour au lendemain, quoi.
Non, il faut quand même se préparer à un changement de vie assez radical. Changement de maillot aussi, on va passer à la soutane. Fini les ambiances survoltées des parquets. Ludovic Duhay intégrera prochainement la communauté des chanoines de Lagrasse. C'est dans l'Aude, pour rentrer à ce que l'on appelle le postulat. Mathieu Péguy, si vous voulez rentrer dans les ordres.
Oui.
Ludovic Duhay vous explique comment ça marche.
C'est tout le contraire de l'image du piège à loup où on pose le pied dedans et les dents se referment. Ce sont plein de petites étapes et à chaque fois, il faut ce que j'appelle un double oui. Le oui de la communauté et le oui de la personne concernée. C'est vraiment une période de discernement dans laquelle on avance pas à pas de manière très concrète.
Voilà, le but, le rêve même, dit-il, une fois cette étape franchie, c'est de devenir prêtre. Mais avant cela, Ludovic Duhay a donc un travail à terminer avec le club de Saint-Nazaire. Ce soir, en finale du championnat de France de volleyball face à Tours, The Last Dance pour Ludovic Duhay, qui rêve aussi d'être sacré champion de France, avant, comme on le disait, de changer de maillot.
C'est incroyable.
Ouais, incroyable. Et puis je ne sais pas si ce sera le même public, mais s'il est après prêtre de la paroisse de Saint-Nazaire, il rencontrera peut-être des gens qui sont allés l'encourager au stade. C'est Olivier Giroud, non, aussi, qui cache pas sa foi.
Oui, oui, exactement.
Le footballeur. Ouais. Merci beaucoup, Julien Taxis. Votre story à retrouver sur rmc.fr. 8h25 minutes.
RMC, la matinale week-end.
Le 10 minutes chrono.
Ah, justement, on offre un week-end dans un monastère. Tout de même. Alors, qui va partir dans ce monastère? Peut-être pour rentrer dans les ordres, on ne sait pas. François, bonjour François.
Bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour Peggy.
Comment ça va? Vous
du Jura. Écoutez, je suis très ravi de vous avoir.
Hein, nous aussi. Vous avez joué avec nous matin par SMS au 732-16?
Oui, tout à fait.
Et bien, c'est gagné un week-end pour nous dans le monastère de Saint-Mont. C'est dans le Gers. Vous allez voir un hôtel de luxe et de charme de la marque Charme et Caractère. Vous allez pouvoir vous détendre. Et en plus, c'est un monastère qui est inscrit aux monuments historiques.
Magnifique cadeau. Merci beaucoup. Hein. Vous êtes vraiment au top. Tout
et
simplement.
Vous n'êtes pas obligé de faire le vœu de chasteté pour aller passer ce week-end dans le monastère, François.
Ah ouais, ça va être génial. Vraiment, merci beaucoup.
Profitez bien, François. Envoyez-nous une petite carte postale. Ça nous fait toujours
plaisir. Ah, écoutez, oui, j'y manquerai pas.
Et merci d'avoir joué avec nous.
Merci beaucoup, bonne journée, bon dimanche.
Le 10 minutes chrono sur RMC avec Charme et Caractère et le monastère de Saint-Mont. Hôtel de luxe et de charme dans le Gers. Rendez-vous sur charme-caractère.com.
On est ensemble jusqu'à 9h30, encore une heure d'information et de débat. Juste après le journal de 8h30, la ministre des Familles, Sarah El Haïry, sera notre invitée. Restez bien sur RMC. Il est 8h30, bienvenue, vous êtes sur RMC. L'heure pour vous de ne rien manquer de l'actualité.
Tout ce qu'il faut savoir, toute l'actu en 5 minutes avec vous, Anaïs Castagna, bonjour.
Bonjour Peggy, bonjour Mathieu, bonjour à tous. La colère de la coordination rurale après les annonces du gouvernement pour les agriculteurs. Le PSG, pas encore champion après le nul 3 partout face au Havre. Et puis la tradition du muguet du 1er mai qui perdure malgré les hausses de prix.
D'abord, retour sur les annonces de Gabriel Attal pour les agriculteurs, pour la coordination rurale. Le compte n'y est pas.
Oui, le Premier ministre a annoncé hier de nouvelles mesures pour apaiser les agriculteurs et tourner la page des blocages du début d'année. Parmi celles-ci, la pension de retraite calculée sur les 25 meilleures années de revenus à partir de 2026. Pour la trésorerie des agriculteurs, la Banque publique d'investissement BPI France apportera des financements nouveaux d'au moins 100 millions d'euros sous forme de prêts de trésorerie personnelle ou de garantie pour les prêts de banques privées. Mais pour Véronique Le Floch, la présidente de la coordination rurale, eh bien, le compte n'y est pas, ce n'est pas assez.
C'est pas suffisant. Nous souhaitons un gasoil à 1 euro TTC maximum. Nous souhaitons un bouclier énergétique. Une agricultrice m'expliquait qu'aujourd'hui, avec une facture d'électricité multipliée par 2 chaque mois, elle ne fait plus tourner qu'une cave sur ses 3 caves. Ouais. Elle dit elle ne peut plus payer. Pour les trésoreries, nous aurions aimé qu'il n'y ait pas de plafond. 100 millions d'euros, c'est juste permettre à 2000 agriculteurs d'accéder à ce type de crédit.
Gabriel Attal a aussi réagi hier à la situation à Sciences Po Paris. Des étudiants ont bloqué leur école pour soutenir les Palestiniens. Blocage levé vendredi soir après un accord trouvé avec la direction. Eh bien écoutez, ce qu'on a dit hier, le Premier ministre, il dénonce un spectacle navrant et il a eu des mots très forts pour tenter de décourager toute tentative de recommencer.
Il n'y aura jamais de droit au blocage et jamais de tolérance avec l'action d'une minorité agissante, dangereuse, qui cherche à imposer ses règles, une idéologie d'outre-Atlantique à nos étudiants et à nos enseignants. Nous ne transigerons jamais sur le respect de la loi, sur le respect des valeurs de la République. Et la vigilance sera totale dans les jours, les semaines et les mois qui viennent pour que le respect de la loi, des valeurs de la République, soit au cœur de la mission de l'administrateur provisoire qui a été nommé, mais aussi évidemment de la future direction qui sera nommée à l'issue du processus de sélection.
Ce matin, je voulais aussi vous dire qu'Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, dévoile un nouveau plan de lutte contre les gros trafiquants de drogue dans la Tribune dimanche, au programme création d'un parquet spécifique aux crimes organisés dès le mois d'octobre. Une nouvelle infraction pour association de malfaiteurs en matière de criminalité organisée, mais aussi et surtout d'un véritable statut de repenti avec des peines réduites et des changements d'identité possibles.
RMC 8h33, Emmanuel Macron prêt à ouvrir le débat sur la défense européenne avec l'arme nucléaire.
Mettons tout sur la table et regardons ce qui nous protège véritablement de manière crédible. Voilà ce qu'a dit le chef de l'État dans un entretien avec des jeunes Européens publié hier par les journaux du groupe EBRA. Le président vise aussi le Rassemblement National à l'approche des élections européennes. Un parti qui ne propose rien selon lui. Il sert aux gens de la démagogie.
Allez, le foot et les Parisiens qui vont devoir encore patienter.
C'est terminé au Parc des Princes. 3 partout entre le Paris Saint-Germain et le Havre. Paris n'est pas champion ce soir à domicile.
Alors qu'un succès pouvait les assurer d'un nouveau sacre hier au Parc des Princes, les Parisiens ont arraché le nul 3 partout en fin de rencontre face au Havre. Après avoir été mené 3-1. Il faudra attendre le match de Monaco face à Lyon pour être peut-être sacré, mais pour l'entraîneur Luis Enrique, eh bien c'est déjà fait. Il pense déjà aux autres titres à aller chercher.
Je considère que nous sommes champions. Grâce à notre différence de but, nous ne serons pas rattrapés. Donc je fête ce résultat comme cela. Nous sommes encore en mesure de jouer la finale de la Coupe de France et nous allons essayer de nous qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. C'est notre objectif. On va y dédier toute notre ambition, notre force. Je crois que l'équipe est dans le meilleur moment de la saison, sans aucun doute.
La suite de la 31e journée de Ligue 1, c'est aujourd'hui sur RMC avec Metz-Lille, 13h à 15h, Strasbourg-Nice, Clermont-Reims, Lorient-Toulouse. À 17h05, Rennes-Brest, Lyon-Monaco 19h. Si Monaco ne bat pas Lyon, le PSG sera donc officiellement sacré ce dimanche. Et à 21h, Marseille lance en direct sur RMC. Autre rendez-vous foot aujourd'hui, PSG-Lyon en demi-finale, retour de Ligue des Champions féminine. Ballotage favorable pour l'OL qui s'était imposé 3-2 au match aller. mais pas de quoi être tranquille pour le match selon Delphine Cascarino, attaquante lyonnaise.
Forcément, c'est positif de partir avec un but d'avance, mais voilà, on sait que ça va pas être facile au Parc des Princes. Donc, dans notre tête, faut se dire qu'il y a 0-0, que rien n'est fait et que tout va se jouer vraiment sur ce dernier match et voire même sur les dernières minutes de ce match.
La rencontre au parc est à suivre à 16h sur RMC.
Le 1er mai approche et avec lui, la tradition d'achat du brand muguet.
Une tradition qui ne se perd pas et ce même si le muguet coûte de plus en plus cher. Les Français ont dépensé en moyenne 7,80 euros l'année dernière pour l'achat de muguet. C'était 7,20 euros en 2022 selon une étude Kantar. Alors pour avoir un peu de chance, un moindre coût, il y a toujours la possibilité évidemment d'aller le cueillir soi-même pour, pourquoi pas, le vendre et se faire un petit peu d'argent. Mais attention, il y a des règles à respecter. Farel Legendre, président de la Fédération française des artisans fleuristes.
Le muguet doit être impérativement du muguet de bois et ça doit être du muguet qui est coupé. C'est absolument pas du muguet en racine. On n'a pas le droit d'avoir de présentation, donc entre guillemets, il n'y a pas le droit d'avoir de peau, il n'y a pas le droit d'avoir de terre. On n'a pas le droit aux emballages. On n'a pas le droit d'y adjoindre de roses, d'y ajouter d'autres fleurs. Et il n'y a surtout pas le droit d'installation en poste fixe. On n'a pas le droit d'avoir une table, d'avoir un parasol, une chaise. C'est uniquement une bassine. Donc autrement dit, la petite bassine avec quelques brins de muguet, oui. Elle n'est autorisée que le 1er mai, pas la veille, pas le lendemain. Uniquement le 1er mai.
Et puis direction les États-Unis, bientôt envahis par... Eh oui, des milliards de cigales.
Ah bon ?
Dans les prochaines semaines, deux groupes particuliers de cigales vont batifoler au même moment. Phénomène rare, c'est pas arrivé depuis 1803. En fait, pour tout vous dire, la majorité des cigales passent leur vie sous terre, sous forme de larves. Elles émergent adultes pour muer, se reproduire. Certaines apparaissent tous les ans, d'autres seulement périodiquement. C'est le cas du groupe 19 qui émerge tous les 3 ans et qui a déjà commencé à envahir la Caroline du Nord, la Caroline du Sud. Il sera suivi par le groupe 13 dans le Midwest qui émerge tous les 17 ans. Dans le centre de l'Illinois, ces deux groupes de cigales vont même être présents au même endroit avec des conséquences sur la nature. Incroyable. A priori, c'est un phénomène fou qui n'arrive donc que très rarement.
C'est la saison des amours pour les cigales.
Voilà, exactement.
Eh ben merci de nous avoir emmenés aux États-Unis. On se croirait presque aussi en Provence.
Oui, c'est
hein.
Ça. Oui.
Là, ça fait du bien. Hein. Effectivement, les beaux jours vont arriver. On y croit.
Oui, pas cette semaine.
Oui, d'accord. Merci. Vous aurez remarqué. Hein. Chaque fois, j'essaye et puis bam.
Non, mais je vous mets face
Madame
à la
météo,
réalité.
Bam.
C'est pas tout de suite.
D'accord, très bien.
Ça va arriver. Gardez espoir.
8h37.
À suivre dans la matinale week-end.
Tiens, on va casser la croûte avec Perry Collegas ce matin. L'art du bon sandwich. C'est dans le beurre et l'argent du beurre. Votre rendez-vous à 9h10.
À 8h50, le coup de main conso justement avec vous, Anaïs Castagna. On va jardiner pas cher.
Oui, je vais vous aider à trouver des plantes pas chères parce qu'évidemment, avec l'arrivée des beaux jours, on a envie de jardiner. Mais c'est vrai que ça coûte cher. Mais moi, j'ai plein de solutions pour éviter de se ruiner.
À tout à l'heure. D'abord, ouvrir le débat sur la GPA en France pour sortir de l'hypocrisie. Voilà ce que souhaite Sarah El Haïry. Elle est ministre de l'Enfance, de la Jeunesse et des Familles. Notre invitée dans 2 minutes. Restez bien sur RMC.
RMC, 6h30, 9h30. La matinale week-end.
Mathieu Rouault.
Bon week-end avec RMC, il est 8h39.
L'entretien RMC.
Et l'invité de l'entretien RMC ce matin, c'est Sarah El Haïry, ministre de l'Enfance, de la Jeunesse et des Familles.
Bonjour à vous.
Bonjour.
Ministre des Familles au pluriel, je sais que vous y tenez. Elles sont désormais sous forme diverse en France, reconnues comme telles. D'ailleurs, on célèbre cette semaine le 11e anniversaire de l'adaptation dans la loi du mariage pour tous. Et c'est en cette même semaine que le débat autour des familles homoparentales s'est relancé. Tweet de Marion Maréchal Le Pen, candidate reconquête aux européennes. Le créateur de mode Jacques Mus a annoncé sur le réseau social la naissance de ses jumeaux issus d'une gestation pour autrui, GPA. Marion Maréchal a répondu, où est la maman ? Vous dites, Sarah El Haïry, avoir eu honte de ses propos. Honte pour qui, honte pour quoi ?
Honte de voir des responsables politiques dans notre pays oublier de qui on parle. On parle d'enfants. On parle d'enfants qui se retrouvent dans les classes d'école avec les autres enfants. Honte de stigmatiser de manière volontaire des familles qui sont diverses dans notre pays. Vous savez, moi je suis la ministre de toutes les familles. Et toutes les familles, ça veut dire quoi ? Bien sûr, les familles avec un père, une mère, des enfants, qu'ils soient mariés ou pas d'ailleurs, et ça n'a pas toujours été le cas dans notre modèle français, de familles qui aujourd'hui malheureusement sont veufs ou veuves, avec des enfants, des familles sans enfants, des familles qui se retrouvent avec des enfants après une recomposition, des familles qui ont adopté des enfants, et bon sang. Où est-ce qu'on est ? Dans quel pays un responsable politique met de la hiérarchie ? Et n'imagine même pas une seconde que ces propos peuvent se retrouver dans des actes de violence entre les enfants dans les collèges.
C'est un appel à la violence, à la haine ?
C'est un risque,
c'est
bien sûr, de violence.
Où est la maman ?
Oui.
où est la maman quand on voit qu'un enfant, peut-être sa maman, elle est peut-être décédée et qu'il n'en a plus. Peut-être que dans un couple, effectivement, homoparental de deux parents, c'est violent. Alors que, bien sûr que quand on fait un enfant, on lui explique la manière dont il a été conçu, accompagné. Et ce n'est pas simple, mais il faut le faire sereinement.
Surtout dans le cas de gestation pour autrui,
on va y revenir. Dans tous les cas, je vous assure, dans tous les cas, on explique en général. Et ce que je ne souhaite pas, c'est laisser perdurer l'idée qu'on a le droit de s'attaquer à des familles parce qu'elles seraient différentes.
Certains élus macronistes et de gauche ont d'ailleurs souligné que les propos de Marion Maréchal étaient de l'homophobie par insinuation. Vous êtes d'accord ?
Oui, ce sont des propos homophobes puisqu'ils ciblent et nient une situation familiale et ils, d'une certaine manière, ils stigmatisent une partie des familles françaises.
Mais alors pourquoi vous ne faites pas usage de l'article 40, eh bien, Sarah El Haïry, qui vous permet d'enclencher une procédure pour que Marion Maréchal soit poursuivie, qu'il y ait une enquête et éventuellement une sanction?
Eh bien, il se trouve qu'il y a déjà des procédures qui ont été lancées et donc on attend les réponses de la justice. Ils ont été portés par des associations qui luttent contre l'homophobie.
Vous pouvez le faire, vous aussi, hein,
oui,
en tant que représentante de la nation.
Je peux et je pourrais encore, je ne m'interdis rien, sauf que la réalité, il y a déjà des procédures qui ont été lancées. Et d'ailleurs, je salue la décision de ces associations de cette saisie.
Ces procédures suffisent. Vous souhaitez une sanction de Marion Maréchal pour ses propos ?
La sanction, déjà, elle est sociale. La stigmatisation, elle est sociale. Par contre, la justice tranchera. Mais très sincèrement, oui, s'il y a sanction à avoir, il faut qu'elle ait lieu pour une raison toute simple. Elle met en danger des enfants. En disant ça, elle cible des enfants qui, dans une situation de classe ou de collège, se retrouvent pris d'une certaine manière par d'autres qui pourraient ne pas comprendre. Alors que plus que jamais, on appelle à une société qui s'apaise, qui débat. Vous savez, c'est pas facile de parler de GPA, c'est pas facile de parler de PMA, c'est pas facile de parler d'adoption, c'est pas facile de parler d'une famille recomposée. On a encore beaucoup de tabous dans notre pays. Mais est-ce que ça se fait de cette manière-là, sur Twitter, en pointant ou en stigmatisant ? La réponse est non.
Je voudrais qu'on réécoute Jean-Philippe Tanguy. Sarah El Haïry, c'est le chef de file des députés Rassemblement National à l'Assemblée. Il était à ce micro, RMC et BFM TV cette semaine. Pour lui, ce n'est pas de l'homophobie, ce qu'a fait Marion Maréchal, mais on l'écoute.
Mais c'est pas de l'homophobie. Moi, j'ai vu des déferlements contre Marion Maréchal.
Ce n'est pas de l'homophobie.
Non, mais non, l'homophobie, la GPA est interdite en France. Marine Le Pen avait dit qu'elle ne reviendrait sur aucun droit, ouais, en particulier un droit qui touche les enfants. Par contre, le fait qu'on puisse enfreindre la loi parce qu'on a plus de moyens, parce qu'on est riche, parce qu'il faut utiliser le mot, parce qu'une GPA coûte très cher, et que donc on puisse faire un doigt d'honneur à la législation française en estimant que parce qu'on appartient à une certaine élite, on peut ne pas respecter les lois françaises, c'est lamentable.
Il y a plusieurs choses, Sarah El Haïry. GPA interdite en France. Nous sommes d'accord. En revanche, les parents français qui font usage de la GPA dans des pays étrangers, pour Jean-Philippe Tanguy, ils enfreignent la loi. Ils font un doigt d'honneur à la législation française. Vrai ou faux ?
C'est eux qui font un doigt d'honneur à toutes les familles françaises. Pourquoi ? Parce que dans notre droit, on protège d'abord les enfants. Et on protège les enfants avec la circulaire Taubira, par exemple, qui établit la filiation entre les parents. Et je vais vous dire pourquoi c'est important d'établir cette filiation. Quand vous êtes le père biologique, mais que vous l'avez conçu dans un couple, et donc vous l'avez accueilli, cet enfant. S'il se passe le moindre drame, vous voulez que votre enfant il aille à l'orphelinat ? C'est ça la réalité. Pourquoi il y a cette circulaire ? Parce qu'elle protège. Est-ce qu'un jour dans notre pays, on aura le courage d'avoir un débat serein ? Moi, je pense que c'est nécessaire un jour.
Vous souhaitez ce débat sur la gestation pour autrui en France. Mais vous venez de le rappeler, les droits des enfants issus des GPA sont déjà encadrés. Qu'est-ce que vous voulez de plus, Sarah El Haïry, en ouvrant un débat sur la GPA en France ? Légaliser la GPA en France ?
Ne plus avoir à entendre et à cibler des familles entières. Ne plus avoir à discriminer des familles entières. Et je vais être plus claire. Pendant longtemps, on a imaginé que la GPA était un combat des familles homoparentales. Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Le nombre de familles hétérosexuelles qui, parce que c'est dur d'avoir des enfants, parce que parfois, quand on est touché, malheureusement, d'une situation plus difficile d'infertilité. Bien sûr que dans une famille hétérosexuelle, on peut avoir, à un moment donné, l'hypothèse de faire ou pas une GPA. Et c'est là où faut pas être naïf. Les propos du Rassemblement National sont des propos, dans ce cadre, homophobes. En Israël, par exemple, c'est juste un exemple. La GPA était légalisée exclusivement pour les familles et résidents israéliens, pour les couples hétérosexuels depuis les années 90. Et puis est arrivé, un jour, après des débats dans leur société...
C'est un progrès social.
Moi, je crois que tout ce qui protège les familles et les enfants, oui. Tout ce qui permet
Faudrait ce progrès social en France, Sarah et Eric. Quel est le fond de votre pensée?
Le fond de ma pensée, c'est qu'il ne faut pas avoir de malaise, de gêne dans notre pays. Comme on a réussi à poser la question de la fin de vie, comme on a réussi à poser des questions de bioéthique, je ne peux pas vous dire avec une totale conviction, voilà ce qu'il faut faire. Je ne suis pas une militante. Je suis simplement dans une situation.
Vous avez un avis personnel tout de même, Sarah El Haïry.
Bien sûr que j'ai un avis personnel.
En tout cas, que vous voulez voir ce débat naître avant la fin du quinquennat.
Je veux qu'on puisse sortir de cette hypocrisie pour protéger les familles dans leur diversité et surtout lever peut-être un tabou particulier qui est celui de qu'est-ce qu'une famille aujourd'hui? Qu'est-ce qu'une famille française? Aujourd'hui, elles sont diverses. Pendant longtemps, on n'a pas protégé les femmes qui souhaitaient avoir une PMA avec une autre femme. Le droit a avancé. Et on a vu même le débat sur le mariage pour tous. Aujourd'hui, il s'est apaisé. Il a été vif et douloureux. On n'est quand même pas condamné à du discours binaire. Alors, est-ce qu'il faut poser ce débat? Poser les mots, poser la question aussi effectivement de qu'est-ce qu'une GPA éthique, quand est-ce qu'elle n'est pas éthique, est-ce que tous les pays aujourd'hui en Europe
qu'est-ce qui
ou
serait
dans
une
le
GPA
monde,
éthique pour vous, Sarah El Haïry, pardon.
Une matinale, c'est difficile de définir qu'est-ce qu'une GPA éthique, si ce n'est
bien
peut-être
sûr
que dans certains pays il y a une rémunération et dans d'autres non.
Échange commercial.
Bien sûr, il y a des pays.
Rémunération.
Il y a des pays qui conditionne les indemnités ou la prise en charge dans la loi, donc il n'y a pas de discussion contractuelle. Dans d'autres, il y a discussion contractuelle. Moi, encore une fois, bien heureux celui qui a des convictions et qui a la certitude la plus ultime d'avoir la réponse. Moi, ma seule conviction, c'est qu'on ne fait pas grandir un pays si on nie la réalité et on n'ose pas le regarder comme il est. Aujourd'hui, la question de la fertilité, la question de la parentalité, la question, d'une certaine manière, de fonder une famille, et encore beaucoup trop emprunt, peut-être, eh bien, d'un cadre trop restreint, avec des relents homophobes, malheureusement. Et la première des protections, on la doit à nos enfants.
Sarah El Haïry, ce qui s'est passé à Sciences Po, il n'y aura jamais de droit au blocage, dit Gabriel Attal. Ces étudiants pro-Palestine qui ont bloqué leur établissement vendredi, un accord a été trouvé avec la direction, qui s'engage à ouvrir le débat, y compris sur la question des partenariats de Sciences Po avec des entreprises qui soutiendraient Israël. La direction a capitulé, c'est ce que dit Maud Bréjon, notamment chez Renaissance. Vous êtes d'accord, capitulation de la direction de Sciences Po?
Ah, c'est plus nuancé que ça quand même. Moi, ce qui est certain, c'est que non, il n'y a pas de droit de blocage dans notre pays. Et moi, j'ai entendu des gens dire « Vous ne pouvez pas tenir de tels propos compte tenu du drame qui est en train de se passer au Moyen-Orient entre Israël et la Palestine ». Aucun sujet dans notre pays n'est interdit au débat. Aucun. Et donc tous les grands mots qui sont utilisés aujourd'hui, c'est une censure, c'est ceci, c'est cela, c'est n'importe quoi. Par contre, ce débat doit se passer dans un cadre, et dans un cadre respectueux. Est-ce qu'on bloque? Est-ce que, d'une certaine manière, on impose par la violence, mais de la mobilisation, de la tension? Non, je ne crois pas que c'est comme ça qu'on avance. Je ne crois pas que c'est comme ça qu'on débat.
Ils sont instrumentalisés, ces étudiants?
Oui, moi j'en ai la conviction. Mais ces étudiants...
Par les insoumis?
Moi, j'ai la conviction que ces étudiants, ce sont de jeunes adultes qui sont à Sciences Po. Sciences Po, ce n'est pas n'importe quelle école. On apprend à réfléchir, on apprend la géopolitique, on apprend les droits et les devoirs. On est d'une
Est-ce
certaine manière une
école
pépite
qui perd de son prestige avec des images comme ça, qui abîme l'image de la France?
Moi, de toute façon, j'ai cette sensation de une université, un lieu où on n'est pas capable de se respecter et où on arrive à la force, où les directeurs et les responsables font appel aux forces de l'ordre pour sécuriser, c'est un échec, bien sûr.
Crainte d'une contagion dans les autres universités?
Ah mais c'est une volonté politique de la France insoumise que d'appeler effectivement au soulèvement. Leurs propres responsables politiques le disent, ils appellent à une mobilisation, à la bordélisation. C'est ça leur appel, parce que je sais pas, je pense qu'ils essayent effectivement d'instrumentaliser malheureusement ces drames pour en faire une sorte de lit politique et lit électoral parce qu'il y a des élections européennes. Mais faut pas se tromper. Quand je vois qu'à Sciences Po Reims, un débat avec la LICRA, la lutte contre le racisme, c'est de ça dont on parle, est interdit parce qu'il y a une minorité qui devient tyrannique, c'est cette même tyrannie de la minorité qui, a aujourd'hui bloqué Sciences Po, donc il ne faut pas être naïf. Ce sont des jeunes adultes, ils ont des responsabilités, ils connaissent le cadre. Quand ils en sortent, il y a des sanctions.
Très vite, Sarah Allegri, pas de questions sur les jeunes adultes supplémentaires, mais plutôt sur les mineurs. Cette fois, couvre-feu, c'est ce qu'ont décidé plusieurs maires, dont Robert Ménard à Béziers. Décision saluée par Gérald Darmanin, qui dit que le couvre-feu pour les mineurs de 13 ans est tout à fait raisonnable. Est-ce qu'il faut cette mesure au niveau national? Est-ce que c'est la solution pour enrayer la violence de plus en plus?
La violence, il faut l'enrayer de plein de manières. C'est pour ça que nous avons des concertations en cours. Mais si je devais revenir juste sur la question du couvre-feu, est-ce que quand on est parent, son enfant à 11 ans, 12 ans ou 13 ans, il doit être dans la rue? La réponse est non. Pas à minuit, pas à une heure. Est-ce qu'il y a des parents qui, malgré le cadre... Yael Mbappé
dit la même chose et elle dit donc couvre-feu.
Mais pas obligatoirement national, puisque d'une ville à l'autre, les réalités, elles sont différentes. Et moi, je ne citerai pas, évidemment, que la ville de Béziers. On était à Viry-Châtillon, une autre sensibilité politique, et qui l'a mis. Moi, j'ai confiance dans les élus locaux qui décident s'ils ont besoin ou pas. Maintenant, il faut être aux côtés des parents. Moi, vous savez, le nombre de mamans que j'ai vues et qui essayent de poser le cadre, mais que leurs enfants, malheureusement, parfois, ils ont des mauvaises fréquentations. Et donc, même si elle dit « tu rentres à 9h, c'est fini à 9h », eh ben, il n'est pas au rendez-vous. Ces parents-là, on sera à leur côté. Parce que ceux-là, ils n'ont pas déserté. Ceux-là, ils se retrouvent d'une certaine manière pris dans un engrenage difficile à gérer. Et là, on peut aider. On peut aider pour que ces enfants ne soient pas, d'une certaine manière, condamnés à la violence et donc, demain, à la délinquance.
Sarah El-Haïry, ministre de l'Enfance, de la Jeunesse, des Familles, merci d'avoir été avec nous ce matin sur RMC.
RMC, la matinale week-end.
Mathieu Roux.
Allez, un peu de papy du rock pour se réveiller ce matin. Les Rolling Stones, vous les avez reconnus. Ils repartent en tournée, c'est dans le bonus RMC dans 2 minutes.
Mais d'abord...
RMC...
Le coup de main conso.
RMC s'engage pour votre pouvoir d'achat, comment faire des économies au quotidien. C'est avec vous Anaïs Castagna.
Ce matin Anaïs, vous nous donnez des astuces pour trouver des plantes pas chères.
Parce que le printemps donne des envies de verre. Le problème c'est que les plantes c'est pas toujours donné. Alors j'ai quelques bons plans à vous proposer pour vous permettre de trouver des plantes accessibles tout en ayant, attention, une démarche responsable. Il n'est pas question de vous inciter à acheter des plantes dans des magasins qui cassent les prix, ne s'occupent pas des plantes et rémunèrent mal les producteurs. Ça je vois pas l'intérêt. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est aller voir les producteurs qui font la vente directe autour de vous, dans la mesure où il n'y a pas d'intermédiaire. Évidemment, ce sera moins cher. Vous pouvez aussi aller faire un tour, et ça c'est un vrai bon plan, dans les lycées horticoles qui proposent souvent des plantes dont se sont occupés les élèves. Et ce sera évidemment à moindre coût.
Alors très bien, autre bon plan Anaïs, la société protectrice, je vais y arriver, des végétaux à Lyon, c'est une sorte de SPA des plantes en fait, c'est ça?
Oui, en fait c'est une organisation qui rachète des plantes sur le point d'être jetées dans des pépinières ou qui récupère des végétaux menacés de destruction sur les chantiers, elle s'en occupe et vous les propose à nouveau. Objectif, éviter de jeter. Écoutez ce qu'en dit Nicolas Talu, c'est le fondateur de la SPV.
On fait souvent en fait le parallèle entre qu'est-ce que vous feriez avec votre enfant s'il est malade? Qu'est-ce que vous feriez avec votre animal de compagnie s'il est malade? Qu'est-ce que vous faites avec votre plante quand elle est malade? Il faut bien comprendre que à chaque fois, il y a toujours une solution et que le fait de jeter n'est jamais la meilleure des solutions pour rentrer dans un système qui soit éco-responsable.
Donc en fait, ce qu'ils proposent, ce sont des plantes un peu abîmées, Anaïs, dont il faut prendre soin, ou des plantes moches, dont personne ne veut, c'est ça?
Non, là, comme vous y allez.
J'aime pas ce terme-là parce que... il y a des plantes qui sont plus en fleurs, donc du coup qui se vendent moins bien. Il y a des plantes qu'on a produites et qu'on n'arrive pas à vendre. Il y a des plantes qu'on a importées et qui ne plaisent pas au public, qui ne sont pas connues, qui sont trop chères. Nous, en les remettant en valeur dans nos pépinières et en les mettant à moindre coût, ben, peut-être qu'on les rend plus accessibles, on fait connaître des nouvelles variétés, des trucs qui ne sont pas à la mode.
Parce que oui, il y a des modes de plantes, c'est un vrai problème, parce que vous savez ce qui se passe, hein, quand c'est plus à la mode, souvent on jette.
À la poubelle.
Bah oui, c'est contre tout ça hein, que Nicolas Talu se bat.
Et il existe aussi des applis pour récupérer des plantes légèrement abîmées.
Too Good To Go, qui marche pour l'alimentaire, vous connaissez, mais aussi pour les plantes, en partenariat avec Jardiland, et puis jeter un œil aussi sur les sites donon.org ou sur Give, où des particuliers proposent des plantes gratuitement avant par exemple de déménager. Avantage, c'est gratuit, pas un centime à débourser et ça permet là aussi d'éviter de jeter, donc c'est une vraie bonne idée.
Et le plaisir d'écouter Laurent vous dire hein, le matin. Merci beaucoup Anaïs Castagna, votre coup de main conso sur rmc.fr. 9h05.
La matinale week-end.
Le bonus RMC.
De Woolsey aux Stones avec vous, Peggy. Début de la grande tournée des Rolling Stones.
Eh oui, première date aujourd'hui. Ça se passe ce soir à Houston, au Texas, pour le Hackney Diamonds Tour. Le titre d'ailleurs de leur dernier album sorti en octobre 2023. Leur 24e album studio en 61 ans d'existence. Un album sur lequel on retrouve ce titre avec Lady Gaga et Stevie Wonder. Et on y retrouve également Elton John ou encore Paul McCartney. C'est le premier album d'ailleurs qui contient des chansons originales depuis 18 ans. Allez, 16 concerts à travers le continent américain jusqu'au 17 juillet. Rendez-vous à Los Angeles, Las Vegas, Seattle, Atlanta, Philadelphie, Chicago ou encore Vancouver. Pas de date malheureusement en Europe. La dernière fois que les Rolling Stones sont passés en France, c'était en 2022 au Groupama Stadium de Lyon et à l'Hippodrome de Longchamp à Paris. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les papys octogénaires sont en grande forme. Mick Jagger, Keith Richards et leurs copains vont remonter sur scène. Ce sera l'occasion de revivre en live les plus grands tubes du mythique groupe de rock. Et vous aurez peut-être cette chance-là, sait-on jamais?
Ah, bah écoutez, ouais, il va falloir s'y prendre assez tôt.
Hein. Ah, très tôt même. Hein.
Ouais, j'imagine. Mais peut-être que vous êtes aussi plutôt Beatles, je le disais ce matin.
Vous êtes plutôt Beatles ou...
Je crois que ça dépend des périodes.
Ah oui, d'accord, c'est même pas en fonction des chansons. Et vous, Anaïs?
Beatles.
Bah moi je suis plutôt Rolling Stones.
Et bah comme ça c'est équilibré le matin sur RMC. Bon réveil à vous, bientôt les infos de 9h.
La matinale week-end.